Quand j'ai commencé à travailler dans les tribunaux, à écrire des chroniques judiciaires, j'avais pas intellectualisé le fait qu'on voyait peu de femmes sur le banc des accusés. Mais petit à petit, c'est devenu flagrant. Lors des audiences de comparution immédiate notamment, ces procédures correctionnelles accélérées où les juges voient défiler des dizaines de prévenus tous les jours. Et ben on fait le décompte. Premier dossier, insulte, outrage à agent dépositaire de l'autorité publique, un homme. Deuxième dossier, acquisition, détention, cession de stupéfiants, un homme. Troisième dossier, harcèlement, un homme. Quatrième, commis avec violence et entraîné une ITT de moins de 8 jours, un homme. Cinquième, un homme. Sixième, un homme. Toujours des hommes. C'est flagrant en fait pour quiconque passe un peu de temps dans un tribunal. Certes, c'est vrai, il y a des crimes qui sont presque uniquement commis par des femmes. C'est le cas des néonaticides, par exemple, ou des crimes liés à leur corps, comme anciennement l'avortement. On en a parlé dans le premier épisode de cette série, et on en parlera dans le prochain. Inversement, il y a des crimes où la participation des femmes est quasiment nulle, inexistante. Les crimes sexuels en sont un bon exemple, puisque plus de 99% des viols sont commis par des hommes. Mais il y a des crimes où les femmes sont presque, d'une certaine façon, surreprésentées, si l'on compare aux statistiques générales de la délinquance féminine par rapport à celle des hommes. C'est notamment le cas en matière de terrorisme. Et surtout, plus intéressant encore, entre guillemets, le nombre de femmes impliquées dans des dossiers de terrorisme, notamment djihadistes, eh bien ce nombre est en constante augmentation. Selon les chiffres de l'ONU, en Europe, plus d'un quart des personnes arrêtées pour des infractions en lien avec le terrorisme djihadiste sont des femmes. Et le nombre de femmes arrêtées a plus de doublé depuis 2014. Par comparaison, le nombre d'hommes arrêtés au cours de la même période n'a augmenté que, entre guillemets, d'un tiers environ. Alors ça reste une minorité, oui, mais en termes de pourcentage, c'est bien supérieur à tout un tas d'autres crimes ou délits. Pourtant, pendant longtemps, la société était réfractaire à reconnaître l'implication de femmes terroristes. Un article du journal français Le Parisien signalait ainsi il y a quelques années à peine
« Il semble difficilement concevable au commun des mortels d'associer les mots terreur et femme lorsque celles-là sont actrices et non victimes de la violence. »
Ainsi, pendant longtemps, la violence politique, idéologique des femmes n'a pas été prise au sérieux. Alors qu'elles ont partout, depuis toujours, fait partie des mouvements de lutte armée. Les grandes figures ne manquent pas. Des révolutionnaires ou communardes françaises comme Charlotte Corday, Germaine Berton ou Louise Michel, à des terroristes kamikazes tels que la belge Muriel de Gauck, en passant par Ulrike Meinhof, tête pensante de la fraction Armée Rouge en Allemagne, responsable de plusieurs attentats, jusqu'aux combattantes kurdes du PKK aujourd'hui, des femmes se sont toujours emparées de la violence physique, armée. Pour autant, cette violence a d'abord été abordée en tant que phénomène d'exception, et non comme le résultat d'un engagement politique, d'un choix rationnel. Pendant longtemps, la justice française, à l'image des autres systèmes judiciaires européens, n'a donc pas pris au sérieux la menace que pouvaient représenter les femmes dans le cadre du terrorisme djihadiste. Elles étaient, somme toute, nécessairement, toujours plus ou moins victimes. Victimes de leurs frères, de leurs pères, de leurs maris, victimes d'un embrigadement, d'un lavage de cerveau, victimes de leurs émotions, de leurs sentiments, de leur romantisme. Elles étaient des victimes. C'est pour ça d'ailleurs que, jusqu'en 2016, les femmes qui revenaient de Syrie ou d'Irak n'étaient, a priori, pas nécessairement inquiétées par la justice, contrairement à leurs homologues masculins, qui étaient, eux, systématiquement incarcérés. Mais ça, c'était jusqu'à ce que deux jeunes femmes de 19 et 29 ans installent des bonbonnes de gaz dans une voiture, les recouvrent d'essence et tentent de faire exploser la cathédrale de Notre-Dame de Paris en septembre 2016. Pour la première fois, sur son territoire, la France fait face à un commando de femmes djihadistes. Pour la première fois, des femmes sont considérées comme étant à la tête d'une cellule et d'un projet terroriste. Et pour la première fois, elles sont appréhendées comme telles par l'institution judiciaire. Pour nous accompagner tout au long de ce récit, Camille Boutron, sociologue, et Béatrice Brugère, ancienne juge antiterroriste.
Faites de cette femme une espèce de vampe.
Les femmes sont exclues du monde judiciaire.
De Circé.
J'étais bête.
Cruelle.
Méchante.
Inflexible.
Pleine de défauts.
Sadique et perverse.
Femme coupable.
L'audience est suspendue.
Un podcast, la première, de Juliette Proutot.
Admettons que quand tu as buté ton vieux, ça t'ait rien fait.
Préparé avec Margot Page.
Mais quand on va te couper la tête, ça va quand même te faire quelque chose.
Et réalisé par Anna Bui.
On ne coupera pas la tête.
Épisode 4. Le terroriste est une femme. Le procès d'Inès Madani. Si l'on compare souvent les tribunaux au théâtre, c'est qu'ils fonctionnent de la même façon, ils sont structurés de la même façon, ritualisés. Il y a une liturgie judiciaire comme il y a une liturgie théâtrale. Et dans un procès, comme dans une pièce, il faut une scène d'ouverture. Aux assises, il s'agit de l'arrivée de l'accusé dans la salle d'audience. C'est avec cette scène que, depuis 2 épisodes déjà, nous ouvrons cette série. Mais pour l'affaire des bonbonnes de gaz, ce n'est pas une mais 4 femmes qui sont attendues en ce lundi 23 septembre 2019. En réalité, la cour d'assises spéciale de Paris doit juger 8 personnes pour tentative d'attentat à la voiture piégée et ses suites, dont 2 tentatives d'assassinat sur des policiers. Parmi les accusés, 6 femmes et 2 hommes. Mais, et c'est bien la spécificité du procès qui s'ouvre, ce ne sont pas ces 2 hommes qui sont au cœur de l'affaire. Le premier, Rachid Kassim, n'est pas présent, puisqu'il est présumé mort dans un bombardement en Syrie en 2017. Quant au second, Mohamed Lamine Abeyrouz, il n'est poursuivi que, entre guillemets, pour non-dénonciation de crime. Non, dans ce procès, c'est les femmes qui comptent. Et parmi les 6 accusés, il y en a 4 qui intéressent particulièrement la cour. 4 qui doivent répondre des charges les plus graves.
4 jeunes femmes accusées d'avoir tenté de faire exploser une voiture près de Notre-Dame.
De la cathédrale Notre-Dame.
Tentative d'attentat de Notre-Dame, c'est l'affaire dite des bonbonnes de gaz.
Elles s'appellent Ornella, Sarah, Amel et Inès. Inès Madani. Et en réalité, c'est ce nom que vous devez retenir. C'est sur elle que va se polariser le procès. Pourquoi ? Parce que c'est elle la principale accusée. C'est elle qui est considérée comme le cerveau de ce qui aurait pu être l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire du terrorisme djihadiste en France. Et aussi parce que, quand elle a tenté de faire exploser une voiture remplie de bonbonnes de gaz devant le parvis de Notre-Dame de Paris, Inès Madani avait à peine 19 ans. Et sa jeunesse interpelle, forcément elle interpelle. 19 ans. On sort à peine de l'adolescence à 19 ans. Il y a des pays où on n'est même pas considéré comme majeur à 19 ans. D'ailleurs, la communauté scientifique s'accorde à dire que le cerveau humain n'atteint pas sa maturité complète avant nos 25 ans. Et Inès Madani, à 19 ans, elle a choisi de faire exploser des bonbonnes de gaz. Alors c'est surtout elle, ce lundi 23 septembre 2019, qu'on regarde s'installer dans le box des accusés. C'est elle, cette gamine mystérieuse qui intrigue, qui déstabilise. C'est à travers son visage, avant même qu'elle ouvre la bouche, son visage, sa posture, sa tenue, que le public tente déjà de trouver des réponses. Elle a toujours le même visage rond et juvénile que celui des photos diffusées après l'attentat. Elle a de grands yeux sombres, des sourcils dessinés qui tombent légèrement pour lui faire un regard un peu triste. Ses longs cheveux bruns sont remontés en chignon. Il y a quelques mèches fines qui s'échappent. Elle porte une chemise jaune sous une veste noire. Quand le procès débute, 3 ans après les faits, elle a 22 ans. Et elle s'apprête à endosser le premier rôle de ce procès hors norme, qui va s'étaler sur 3 semaines dans l'une des plus anciennes salles d'audience du palais de justice de Paris, la salle Voltaire. Quand vous entrez dans cette pièce, vous êtes forcément frappé par le décorum. Il y a 4 grands lustres qui pendent au plafond, un plafond entièrement recouvert de moulures et de dorures. Le box des accusés, encadré de parois de verre, est situé sur la droite, au fond de la pièce. Il est particulièrement grand, suffisamment pour accueillir 7 personnes et leurs escortes policières. C'est d'autant plus impressionnant qu'il est surplombé par une gigantesque peinture murale, où l'on peut apercevoir des magistrats en robe rouge et un homme avec une épée. Et juste à côté, une gigantesque et vieille horloge. En termes de symbole, on est servi. Et c'est donc dans ce décorum imposant qu'entre en scène Inès Madani, accompagnée de ses co-accusés. Est-ce qu'elles ont conscience de l'ampleur de la pièce qui se joue autour d'elles ? Des enjeux du procès qui est le leur ? Non seulement c'est le premier grand procès de terrorisme islamiste depuis les attentats de 2015, mais surtout, jamais, dans l'histoire judiciaire française, un box de cour d'assises n'avait accueilli un commando djihadiste composé exclusivement de femmes. Or, ce n'est pas l'image que la justice ou l'opinion publique avait du djihad.
On a une image assez racialisée du djihad et très genrifiée d'une certaine façon, avec des hommes barbus hyper violents et des femmes soumises, voilées, qui vont s'enfermer dans la maison. On n'imagine pas des femmes qui vont être entrepreneurs de violence dans le cadre du djihad.
Camille Boutron, sociologue.
Dans les stéréotypes, mais aussi dans les textes et de façon générale, c'est quand même pas une chose qu'on voit souvent. Donc du coup, un procès qui va pour terrorisme, pour attentat terroriste, où la plupart des accusés et des principales accusées sont des femmes, c'est sûr, ça rompt tous ces stéréotypes-là. En plus de rompre le tabou fondamental, un petit peu, entre guillemets, historique de la violence des femmes en général. La violence des femmes, lorsqu'elle est appréhendée, elle est appréhendée comme une pathologie, parce qu'elles sont folles, comme une exception, ou alors, quand elles ont été du bon côté de l'histoire, comme des héroïnes révolutionnaires, des Louise Michel, des... Mais elle est rarement appréhendée comme l'illustration d'un engagement politique des femmes dans quelque chose, dans une lutte collective, etc.
Le procès des bonbonnes de gaz, comme on l'a appelé, ça n'est pas seulement l'histoire d'un attentat miraculeusement évité. C'est aussi et surtout un virage dans la justice terroriste française. Pour la première fois, dans le cadre du djihadisme, l'institution judiciaire doit faire face à l'engagement idéologique des femmes. Pour la première fois, les femmes ne sont pas les complices, les épouses ou les victimes de terroristes, non. Les djihadistes, ce sont elles. Alors que le décor est posé, tous les protagonistes ont pris place. C'est au tour des juges d'entrer en scène. La sonnerie, toujours. Le bruit d'une foule qui se lève. Vous pouvez vous asseoir. Et le premier acte commence. Dans un procès, on commence toujours par faire un genre de résumé du crime ou du délit qui va être traité par le tribunal. On dit qu'on procède à la lecture des charges d'accusation, au rappel des faits. C'est comme une petite présentation, pour que tout le monde sache pourquoi on est là. Et les faits, les voici. Au tout petit matin du dimanche 4 septembre 2016, une Peugeot 607 s'arrête dans une rue animée du 5e arrondissement de Paris. On est juste à côté de la cathédrale de Notre-Dame, moins de 300 mètres. Ce quartier est vraiment au centre de la ville. C'est un quartier très touristique, surtout en cette fin d'été. D'ailleurs, les rues sont encore très animées. Elles sont remplies de couche-tard qui font durer la nuit jusqu'au matin. Au début, personne ne remarque la voiture. Personne ne remarque non plus les deux individus qui en sortent et s'en éloignent rapidement. Pourtant, la Peugeot est garée au milieu de la route. Les warnings sont allumés. Mais les minutes passent, les heures, et puis rien. Et puis, à un moment, un serveur de l'un des bars de la rue finit par s'intéresser à la voiture. Il trouve ça louche quand même, cette voiture immobile depuis 2 heures avec ses warnings qui clignotent. Il appelle la police arrive 4 heures plus tard. En même temps, un appel pour un véhicule abandonné un soir de week-end, dans un quartier connu par les fêtards de tout Paris. Peut-être que c'est juste une histoire d'ivrogne trop imbibé pour reprendre le volant. Peut-être aussi que des appels comme ça, la police elle en reçoit des centaines tous les soirs. Mais cette fois, c'est différent. Parce que, quand ils arrivent sur place, les enquêteurs découvrent que le véhicule est rempli de 5 bonbonnes de gaz prêtes à exploser sous la combustion de cigarettes allumées. Cigarettes allumées déposées exprès dans l'habitacle, habitacle imbibé de gasoil.
2 personnes avaient été placées en garde à vue en France après la découverte de 6 bonbonnes de gaz dans le véhicule d'un individu fiché S. La voiture aurait été retrouvée.
Quelles étaient les intentions de ceux qui ont laissé la voiture ? Est-ce qu'ils ont planifié une attaque ? Ce qui est intéressant, c'est que si la piste terroriste n'est pas encore confirmée, les médias genrent immédiatement les suspects au masculin. Question d'habitude, sûrement. De statistiques, d'a priori, peut-être. Après tout, le djihadisme, le terrorisme, la violence, même plus largement, c'est avant tout une affaire d'hommes.
Par exemple, moi qui ai eu affaire à des affaires terroristes, dont une, par exemple, qui est assez significative dans l'histoire du terrorisme.
Béatrice Brugère.
Le dossier d'Artigat que j'ai eu à connaître et à juger.
Ancienne juge antiterroriste.
C'est donc Olivier Corel, c'est les frères Klein qu'on a retrouvés après dans le dossier du Bataclan. D'abord, on n'avait pas de femmes. Ils étaient nombreux, mais il n'y avait pas de femmes. Les femmes n'étaient pas là non plus à l'audience. Et elles étaient, j'allais dire, même dans les dossiers, elles ne faisaient pas l'objet de grande attention.
Ça Cette fois, les terroristes s'appellent Inès et Ornella. Au bout de quelques jours d'enquête, un groupe d'individus terroristes affiliés à l'État islamique est identifié comme étant à l'origine de cet attentat raté. La chasse à l'homme est lancée, elle tourne court, puisque moins de 4 jours plus tard, ce ne sont pas des hommes que les enquêteurs arrêtent, mais des femmes. Et à leur tête, une jeune Française de 19 ans à peine, Inès Madani. Grâce aux empreintes laissées dans la voiture et au nom du propriétaire de la Peugeot, les enquêteurs remontent rapidement la piste des deux jeunes femmes qui se sont séparées après avoir laissé la voiture dans la petite rue du quartier Saint-Michel. Ornella Gillingman, mère de famille de 29 ans, est arrêtée la première. 3 jours à peine après les événements, alors qu'elle prenait la fuite vers le sud de la France avec son mari. Elle était fichée S pour avoir tenté de partir en Syrie. Et puis Inès Madani, donc. Qui, elle, n'a pas fui. Au contraire. Quand elle réalise que l'attentat a échoué, elle se rend à Boussy-Saint-Antoine, en région parisienne, pour rejoindre 2 autres femmes, Amel Sakaou et Sarah Hervouette. Elles se cachent toutes les 3 dans l'appartement d'Amel Sakaou et imaginent une autre action, un autre attentat. Il y a une rage, une violence qui se répand et s'alimente entre ces 3 femmes. Elles réfléchissent à peut-être faire sauter la gare de la commune. Et quand elles apprennent la présence de policiers dans le quartier, autour de la petite gare justement, elles tentent leur chance. Une attaque au couteau, par exemple. C'est moins impressionnant qu'une voiture qui explose. Ça tue moins de monde, mais bon. C'est aussi bien moins compliqué à organiser. Et puis, tuer des flics, c'est aussi un sacré symbole. Alors, le 8 septembre 2016, 4 jours après la tentative d'attentat des bonbonnes de gaz, les filles sortent de l'appartement munies de couteaux de cuisine. Elles sont déterminées. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. Elles pensaient avoir un coup d'avance, alors qu'en fait, elles en ont plusieurs de retard. En effet, depuis quelques temps, l'appartement d'Amel Sakaou est surveillé par les services de renseignement. Tout comme le téléphone de Sarah Hervouette. Alors, quand les enquêteurs découvrent que le téléphone de Sarah borne au même endroit que celui d'Amel et qu'ils observent l'arrivée d'une 3e femme dans l'appartement, ils s'y tiennent prêts. 7 policiers de la DGSI sont envoyés en mission de surveillance. À 19h, 3 femmes, 2 en djilbab, c'est le voile qui laisse apparaître uniquement l'ovale du visage, et une 3e en jogging casquette sortent sur le parking où sont postés les policiers. Sarah se met à courir en direction du véhicule banalisé à l'intérieur duquel se trouve un policier. Elle lui assène un violent coup de couteau dans l'épaule gauche. Se trouvant face à un policier qui arrive dans l'autre sens, Inès se jette sur lui un couteau à la main. Il lui tire dessus 4 fois et la blesse aux jambes. Il raconte
« J'ai réussi à l'attraper par les cheveux, je l'ai traînée sur 1 ou 2 mètres. Elle était comme possédée, elle avait une force surnaturelle. Elle avait la force d'un homme de 110 kilos. » À terre, chaque fois que j'approchais, elle essayait de me mettre des coups de couteau. Je ne voulais surtout pas qu'elle arrive à ses fins et qu'elle meure en martyr. Elle était déterminée, avait un regard noir. Elle était prête à donner la mort.
L'arrestation d'Inès Madani, d'Ornella Gillingman, de Sarah Hervouette, d'Amel Sakaou et les perquisitions à leur domicile viennent confirmer l'hypothèse de l'attentat djihadiste pour la voiture retrouvée pleine de bonbonnes de gaz. Mais ce n'est pas tout. Les enquêteurs n'avaient pas imaginé qu'en mettant la main sur ces femmes, il réalise en réalité un véritable coup de filet sur tout un réseau terroriste.
Mesdames, Messieurs, c'est
François Molins, procureur en charge du dossier.
Un commando terroriste composé de jeunes femmes totalement réceptives à l'idéologie mortifère de Daesh a été démantelé. Le passage à l'acte par des jeunes femmes téléguidées par des individus se trouvant en Syrie, dans les rangs de l'organisation terroriste Daesh, démontre que cette organisation entend faire des femmes des combattantes. Si les femmes ont pu...
Ce que les enquêteurs découvrent, c'est qu'autour des femmes qu'ils viennent d'arrêter, autour d'Ornella, de Sarah, d'Amel et d'Inès, il existe une longue et sombre toile qui les relie à une partie des plus grands noms du terrorisme djihadiste. Et que, d'une certaine manière, celle qui est au centre de la toile, celle qui les relie tous, c'est Inès Madani, la plus jeune protagoniste. C'est Inès Madani qui a recruté Ornella Gillingman sur Internet, via le réseau Telegram. C'est Inès Madani qui a réuni Amel Sakou et Sarah Hervouette, les 2 femmes avec lesquelles elle a attaqué les policiers. Sarah Hervouette, qui d'ailleurs n'est pas n'importe qui, on l'appelle la petite fiancée des djihadistes. Parce qu'à 23 ans seulement, elle a été fiancée numériquement, puisque les mariages ont lieu via Internet, fiancée à 3 hommes tristement connus de Daesh. D'abord, Abdel Kermiche, le meurtrier du prêtre Jacques Amel, en région parisienne en juillet 2016, quelques mois avant l'attentat de Notre-Dame. Mais aussi la fiancée de Larossi, Abala, l'homme qui a tué deux policiers dans l'Essonne, puis de Mohamed Lamine Abérouz, le guide spirituel de la Russie Abala. Et c'est pas fini. Inès Madani était aussi en contact direct avec Rachid Kassim, un Français, un personnage important de l'État islamique, chargé d'étendre l'idéologie djihadiste depuis la zone irako-syrienne, via les réseaux sociaux, et d'aider à organiser à distance des attaques sur le territoire français et européen.
Dans ce dossier-là, vous avez quand même la figure d'un certain Rachid Kassim, qui a été un des premiers, en tout cas des plus importants personnages, pour divulguer cette vision-là sur des vidéos, et qui a embrigadé comme ça des centaines de personnes avec une pédagogie extrêmement, extrêmement précise, extrêmement efficace.
Présumé mort en 2017, son rôle dans l'affaire des bonbonnes de gaz est pourtant fondamental. C'est pour ça qu'il est l'un des deux hommes accusés dans ce dossier. Ah, et puis, Inès Madani a aussi échangé en ligne avec Ayad Boumediene, la veuve d'Amedi Koulibaly, le tueur de l'hypercacher à Paris en 2015. Ayad Boumediene, elle-même réfugiée au sein de l'État islamique en Syrie. Donc, non seulement ces femmes voulaient faire exploser une voiture piégée, en tentant de faire un maximum de victimes, mais leurs actions s'inscrivent dans une dynamique organisée. On n'a pas affaire à des initiatives aléatoires, complètement hasardeuses et individuelles, non. Il y a quelque chose d'organisé. Même si les stratégies mises en place par Inès Madani et ses complices étaient loin d'être parfaites ou très précises, il n'empêche qu'on assiste à la construction d'un réseau, de méthodes d'action construites par des femmes autour de femmes.
Si les femmes ont pu,
François Molins,
d'abord, sembler être confinées à des tâches familiales et domestiques par l'organisation terroriste Daesh, force est de constater que cette vision est aujourd'hui largement dépassée.
L'organisation terroriste. Et au lendemain de ces annonces, tout le monde se pose la même question.
Mais aussi des femmes, des jeunes femmes.
A-t-on sous-estimé la place des femmes dans le terrorisme djihadiste ?
Ça, c'est sûr qu'on l'a sous-estimé.
Camille Boutre.
Si vous regardez, alors ça a changé, mais si vous regardez un petit peu les récits médiatiques dans les années 2014-2015, avant 2016 justement, c'est des jeunes filles influençables, en crise d'adolescence, en crise d'identité. Elles se font attraper sur Internet par des beaux discours et des hommes sulfureux. Limite, on est dans le prince oriental qui fait vibrer toutes ces jeunes filles blondes et de familles catholiques et qui vont être détournées pour partir. Non mais c'est ça le discours. J'exagère à peine. Or, on voit bien, les femmes, elles avaient un rôle. Comme elles n'intéressent personne ou qu'on s'en méfie pas assez, elles arrivent au niveau du renseignement, notamment de la logistique, à faire des choses incroyables. Voilà. Je suis pas spécialiste du renseignement, mais je pense que là, il y a eu des petits loupés. Elles étaient considérées comme non dangereuses, en fait.
Parce que si on regarde et qu'on sort un petit peu des tribunaux et de nos dossiers,
Béatrice Bouger,
on s'aperçoit que dès 2016, par exemple, juste avant le procès de Madani, hein, qui est un procès qui aura changé le regard de la justice, on avait déjà énormément de femmes qui étaient parties sur site, puisque les services de renseignement, déjà dès 2016, sur les 700 djihadistes français qui étaient partis rejoindre les territoires pour construire, vous savez, l'État islamiste, 300 femmes étaient déjà recensées. Donc en fait, quasiment la moitié. Donc c'est vrai qu'on n'a peut-être pas pris tout à fait la mesure de ce que ça pouvait signifier à l'époque, et surtout de ce que ça allait entraîner par la suite. Donc on voit bien que notre regard a changé, mais c'est aussi un regard qui a été mis à l'épreuve de la réalité.
Il y a aussi une autre raison qui peut expliquer qu'en France et en Europe, on ait sous-estimé l'engouement des femmes pour les principes défendus par l'État islamique. C'est l'argument dit « féministe », c'est-à-dire le fait de croire que, parce que des adolescentes grandissent et sont élevées dans des sociétés qui prônent, a priori, l'égalité entre les femmes et les hommes, alors elles ne peuvent pas être attirées par un régime aussi misogyne, sexiste que celui de Daesh. Et pour la sociologue Camille Boutron, c'est clairement une erreur.
La situation, elle n'est pas extrêmement rose en France pour les classes populaires, les classes moyennes, les enfants fils d'immigrés, et encore plus pour les femmes. Enfin voilà, il y a des conditions structurelles qui touchent la jeunesse française dans son ensemble qui font qu'on peut comprendre que la tentation radicale, pas forcément djihadiste d'ailleurs, puisse être rationnelle.
Le fait est que, dans notre affaire, la radicalisation de ces quatre femmes, Inès, Ornella, Amel et Sarah, ne fait plus de doute. Mais si certains faits concernant ce dossier sont établis, il y a beaucoup de questions qui sont encore en suspens. Et pas de moindre. Si ces quatre femmes font partie intégrante de la menace djihadiste, qui sont-elles exactement? Quel a été le rôle de chacune? Et puis, déjà, pourquoi la Peugeot n'a-t-elle pas explosé? La peur? Les remords à la dernière minute? Ou bien une erreur? Un dysfonctionnement technique? La première personne qui va éclaircir une partie de ces zones d'ombre, c'est l'une des terroristes elle-même, Ornella Gilligman, une mère de famille de 29 ans qui confirme, dès les premières heures de sa garde à vue, sa participation à la tentative d'attentat de Notre-Dame. Par contre, elle tient à préciser tout de suite, elle n'a rien à voir avec l'attaque au couteau contre les policiers qui s'est déroulée à Boussy-Saint-Antoine, elle n'était pas au courant. Et puis, elle n'a jamais été en contact avec Sarah Hervouet ou Amel Sakaou, c'est Inès qui les connaissait. Sur la voiture piégée, Ornella raconte que c'est bien elle et Inès qui ont laissé le véhicule prêt à exploser. Elle dit que oui, les cigarettes retrouvées à moitié consumées étaient censées servir de détonateur. Et que si l'explosion n'a pas eu lieu, c'est parce qu'elles ont utilisé du gasoil et non de l'essence. Or c'est l'essence qui est bien plus inflammable. Une erreur de débutante? Non, selon Ornella, c'est elle qui a eu l'idée, espérant secrètement éviter un carnage sans qu'Inès Madani soit au courant. La jeune femme raconte ensuite qu'après avoir abandonné la voiture, elle se sépare d'Inès et rentre chez elle, à Montargis. Paniquée, elle décide alors de prendre la fuite avec son mari et ses enfants. Dans l'ensemble, les déclarations d'Ornella tendent à identifier Inès non seulement comme la leaduse du projet d'attentat, comme celle qui était à l'initiative de l'action, mais aussi comme quelqu'un qui avait un genre d'ascendant sur elle, une sorte d'emprise. Mais comment une femme de presque 30 ans, mariée, mère de deux enfants, installée dans une vie somme toute ordinaire, se retrouve dans une telle situation d'emprise? Surtout vis-à-vis d'une jeune fille, à peine majeure, qu'elle dit n'avoir jamais rencontrée physiquement jusqu'à ce soir du 3 septembre. La réponse d'Ornella Gilligman:
c'est à cause d'Abou Omar.
C'est à cause d'Abou Omar. Abou Omar, un homme qu'elle rencontre sur une application de messagerie qui se présente comme djihadiste. Abou Omar, un homme qui l'encourage sur le terrain de la radicalisation, qui veut l'entraîner dans ce qui est la vraie religion musulmane, qui veut l'amener à s'éloigner des mécréants, des faux musulmans, comme son mari par exemple. Abou Omar qui lui parle du djihad, de la place que les femmes peuvent désormais prendre dans le djihad. Cet homme semble maîtriser parfaitement les éléments de langage de Daesh pour recruter des femmes. Et il sait au moins aussi parfaitement utiliser les réseaux sociaux à son avantage. Et c'est bien l'une des caractéristiques de l'État islamique que d'avoir compris très vite l'importance d'Internet pour mobiliser des hommes et peut-être aussi surtout des femmes.
L'État islamique a largement eu recours aux réseaux sociaux pour avoir une stratégie et développer un discours de recrutement des femmes et des femmes occidentales. Ils n'ont pas eu le même discours de recrutement pour les femmes au Moyen-Orient qu'en Angleterre, en France ou en Belgique. Donc c'est sûr que c'est à prendre en compte et que probablement ça va permettre les réseaux sociaux de dépasser certaines barrières qui existent dans le monde entre guillemets physique, parce qu'en plus ça promet une certaine clandestinité.
Ce réservoir de femmes, il faut aussi l'analyser dans un débat théologique, quasi théologique et stratégique des filières, en tout cas des réseaux terroristes entre Al-Qaïda, Daesh, l'État islamique, etc. Mais d'autres sur la place de la femme. Est-ce qu'elle peut être combattante et est-ce qu'elle peut être martyre et est-ce qu'elle peut être utilisée comme armée de réserve? Et tous ces débats, ils ont lieu. Elles obtiennent cette possibilité d'être terroriste, à la fois à 100% à temps plein et même d'être martyre.
Sachant que l'idée qui est importante d'avoir des femmes dans des groupes armés, c'est que ça permet de recruter plus d'hommes. Les hommes, si on leur promet des femmes, ils viennent plus facilement quand même. Enfin voilà, il y a des logiques comme ça. Donc c'est vraiment pas un hasard qu'il y ait des femmes dans l'État islamique et dans des groupes armés en général. Parce que très clairement, le sexe a été un outil marketing qui a très bien fonctionné, quoi.
Et d'ailleurs, on retrouve une grande dimension séductrice, érotique, dans les échanges entre Abou Omar et Ornella. Dans le courant du mois d'août 2016, mois qui précède donc l'attentat raté, les enquêteurs décomptent plus de 4000 messages, appels ou notes vocales échangées entre le jeune homme et la mère de famille. Et une grande partie de ces messages présentent un caractère érotique ou sexuel, parfois assez cru. Ornella explique être tombée amoureuse d'Abou. Et c'est surtout sous cet angle qu'elle justifie sa radicalisation. Elle dit aux enquêteurs:
sa fermeté et son charisme m'ont séduite. C'est plus la femme que la pratiquante qui a été convaincue. Je suis tombée amoureuse comme jamais je ne suis tombée amoureuse. Et de son côté, c'est la même chose, si ce n'est plus. Il m'a fait croire que mon mari ne me méritait pas. Il a commencé à l'insulter, à le contredire sur tout, et surtout sur la religion.
Ornella se présente donc comme une victime d'Abou Omar, dont elle était éperdument amoureuse, comme si ses sentiments avaient pris le dessus sur sa raison. Comme si elle était allée rejoindre Inès Madani et l'aider à commettre un attentat uniquement parce que l'homme qu'elle aimait le lui avait demandé. Mais ce qu'Ornella ne dit pas, c'est qu'en réalité, sa radicalisation avait commencé avant la rencontre virtuelle avec Abou Omar.
Alors Ornella Gillingman, c'est un cas intéressant parce que quand même, avant de rencontrer Abou Omar, d'en tomber amoureuse et voilà, de se retrouver embrinquée dans une histoire, hein, voilà, elle avait quand même été à des réunions, des meetings, enfin la tentation djihadiste, elle l'avait déjà. Hein. Donc il ne faut pas trop vite dire, ah oui, elle s'est fait avoir, elle est tombée amoureuse. Bien sûr hein, qu'il y a une dimension émotionnelle, voire sexuelle, séductrice, amoureuse, fantasmatique. Je pense que ça concerne les hommes et les femmes. Il ne faut pas la nier, mais elle ne suffit pas en fait à faire ce genre de choix.
D'ailleurs, parmi les milliers de messages échangés entre Ornella et Abou Omar, il y en a beaucoup qui concernent la religion, le djihadisme, et puis la préparation de l'attentat aussi. Donc, cette posture de femme embrigadée par amour et par désir, elle n'est que moyennement convaincante pour les enquêteurs. Mais par contre, ce qu'Ornella ignorait, ce que la police découvre après son arrestation, c'est qu'Abou Omar n'existe pas. Qui n'a jamais existé. Parce que Abou Omar, en réalité, c'est Inès Madani.
Du côté du président de cette cour spéciale, on a rappelé son côté manipulatrice. On a aussi évoqué le fait qu'elle avait pris des pseudos pour faire croire qu'elle était un homme et séduire des jeunes femmes pour les inviter à la rejoindre dans son entreprise terroriste.
Abou Omar, l'homme qui a échangé pendant des semaines avec Ornella Gillingman, l'homme avec qui elle a fomenté l'attentat raté de Notre-Dame, l'homme dont elle est tombée amoureuse, Abou Omar est donc en réalité une femme, et il s'agit d'Inès Madani. Inès Madani, cette jeune femme de 19 ans, fichée S pour avoir tenté de partir en Syrie, et dont le visage garde encore des traits de l'enfance, Inès Madani s'était créé différents comptes sur les réseaux sociaux et autres applications de messagerie, où elle se faisait passer pour un homme, un combattant de Daesh. Elle poussait le travestissement jusqu'à utiliser des photos de son beau-frère comme photo de profil. Il a le visage rond lui aussi, et des petites lunettes. Parmi ses pseudos, on trouve Abou Souleymane, Yassine Madani, et évidemment Abou Omar. C'est donc Abou Omar qui avait proposé à Ornella de rejoindre sa cousine Inès pour commettre l'attentat près de Notre-Dame. Abou et Inès ne formant qu'une seule et même personne. Mais si cette découverte surprend les enquêteurs, le travestissement des femmes pour l'action armée n'est en réalité pas un phénomène exceptionnel.
Des femmes qui se travestissent en hommes pour arriver sur les champs de bataille, il y en a plein dans l'histoire. Notamment, on en a pendant l'Ancien Régime, qui ne voulaient pas quitter leur mari, donc elles s'habillaient en hommes pour les suivre. On a eu des femmes qui, pendant la Révolution française, ont demandé à pouvoir intégrer l'armée pour accéder au statut de citoyenne. Évidemment, on leur a dit qu'elles étaient folles. Je crois qu'on a fini par couper la tête de quelques-unes d'entre elles, d'ailleurs. Mais certaines d'entre elles se sont travesties. Enfin, des femmes qui se travestissent pour pouvoir être sur les champs de bataille. C'est une longue histoire. Donc, pour le coup, Inès Madani, qui se fait passer pour un homme, pour faire la guerre, on est dans quelque chose, entre guillemets, d'assez classique. Là où il y a quelque chose de différent, c'est en effet les réseaux sociaux. Et surtout, le côté où elle se fait passer pour un bourreau des cœurs et où elle utilise les sentiments, etc.
Après cette découverte, les enquêteurs se concentrent sur Inès, qui devient l'élément central de leurs investigations. D'autant plus qu'elle est la seule à avoir participé à la fois à la tentative d'attentat avec la voiture piégée et à l'attaque contre les policiers avant son arrestation. Elle est celle qui relie Ornella à Amel et Sarah, les deux autres femmes qui ont été arrêtées à Boussy-Saint-Antoine. Elle est au centre de la toile. Au-delà de la tentative d'attentat à la voiture piégée, la radicalisation, la violence de la jeune fille transparaît dans toute sa vie numérique. On trouve par exemple des traces de l'adolescente dès 2015 dans un groupe djihadiste sur Telegram baptisé
Ansar Dalla.
Dalla, ça veut dire état
en arabe. C'est comme ça qu'ils appellent Daesh.
C'est comme ça qu'ils appellent Daesh. Dans ce groupe, on parle
de victoire et de martyr.
On parle
des soldats de l'islam.
Des soldats de l'islam.
De ceux qui s'accrochent et qui aiment la mort.
Et si Inès Madani gère avec deux autres personnes ce groupe, elle ne le fait pas sous son vrai nom, ni sous son vrai genre. Sur ce groupe, elle est Abou Souleyman, un combattant revenu de Raqqa à Paris pour commettre un attentat. Et la jeune femme va jusqu'à rédiger une lettre terrifiante, remplie d'idées froides, précises, pour la mise en œuvre d'attaques meurtrières de masse. Elle écrit
« On peut viser un endroit où il y a beaucoup de monde, des boîtes de nuit dans Paris ou des cabarets, les endroits pervers, beaucoup fréquentés par les mécréants dégueulasses.
Il faudrait un ou deux kamikazes à l'intérieur.
Une fois qu'il est à l'intérieur, il attend que ça se remplisse bien et il passe à l'acte. Ensuite, les frères qui seront dehors tueront tout le reste de la viande impure. Ils se planqueront jusqu'à ce que la police et les militaires seront sur place. Et là, il faut un ou deux kamikazes armés. On tire jusqu'à la mort, mes frères.
On tire jusqu'à la mort, mes frères. Ces mots, Inès Madani les a écrits sous le nom d'Abou Souleyman, plusieurs mois avant l'attentat raté des bonbonnes de gaz. Mais il y en a d'autres, des mots, qu'elle laisse sous son nom à elle, cette fois. Comme son serment d'allégeance à l'État islamique, retrouvé dans son sac par les enquêteurs. L'allégeance, c'est une étape obligatoire très forte, symboliquement, pour les futurs kamikazes. Et cette fois, pas d'Abou Souleyman ou d'Abou Omar. Non, cette fois, c'est Inès Madani qui parle. Elle écrit
« Je vous attaque dans vos terres afin de marquer vos esprits et vous terroriser. L'islam sera victorieux.
Embrassez l'islam avant qu'elle vous traque et vous tue. » Mais pourquoi cette gamine, issue d'une famille de classe moyenne où l'on pratique l'islam comme le commun des mortels en France, selon les mots de l'enquêteur de personnalité, pourquoi et comment cette gamine qui se rêvait pâtissière entourée de quatre sœurs bascule vers le djihadisme ? Voilà une partie des questions qui sont au centre du procès du commando des bonbonnes de gaz qui s'ouvre en septembre 2019. Il faut comprendre que le procès dit des bonbonnes de gaz s'inscrit dans un contexte juridique et politique assez particulier. Parce qu'il s'agit du premier grand procès de terrorisme depuis la série d'attentats de 2015 en France et aussi de mars 2016 en Belgique. Or, cette période a fondamentalement et durablement traumatisé le pays et ses institutions. À partir de ce moment-là, le terrorisme djihadiste ne représente plus seulement un sujet sécuritaire ou judiciaire. Non, désormais, il est politique. La population, elle attend des réponses, des explications et surtout des sanctions. Une certaine tension se fait sentir dès le premier jour du procès quand Amel Sakaou, qui avait caché Inès après sa tentative d'attentat et qui avait participé à l'attaque au couteau contre deux policiers, quand elle refuse de comparaître. Amel ne mettra pas un pied dans la salle de la cour d'assises, dont elle ne semble pas reconnaître l'autorité. Le ton est donné. Sur le banc des accusés, les yeux sont donc rivés sur Inès, Ornella et Sarah. Les enjeux sont multiples. Ces femmes vont devoir justifier de leur part de responsabilité dans la tentative d'attentat à la voiture piégée, ainsi que dans l'attaque contre les deux policiers au moment de leur arrestation. Il leur faudra aussi expliquer la façon dont elles se sont rapprochées, dont elles se sont organisées, et les raisons de leur glissement vers le djihadisme. Mais en réalité, celle dont on attend surtout les explications, c'est Inès. Et cette gamine, elle reste une énigme. Les raisons de sa radicalisation, personne n'a de réponse. Ce qui est sûr, c'est que son profil diffère de celui de ses complices. Il est définitivement plus politique. C'est ce que révèle l'instruction, qui tend à démontrer la responsabilité d'Inès dans la construction et l'établissement d'un vrai réseau terroriste, au sein duquel son rôle est vraiment loin d'être anecdotique.
Ce réseau, en fait, met à jour tout un tissu d'influence de femmes qui sont beaucoup plus nombreuses que celles qu'on a vues dans le dossier, hein, puisque tout le monde n'a pas été judiciarisé, au sein duquel Madani a un rôle central, en fait, et sur lequel elle active d'autres réseaux de femmes radicalisées avec une imbrication avec des cellules de commandement, en fait, c'est ça qui est intéressant, à la fois stratégiques et opérationnelles, qui, eux, sont menées par des hommes dont finalement Madani est devenue l'émissaire ou le bras droit. Donc elle fait le lien entre à la fois tout un maquis de réseaux, de femmes, d'associations, etc., qui sont plus ou moins radicalisées, et des hommes qui, eux, sont vraiment dans des cellules de commandement opérationnel sur une vision terroriste de
grande ampleur. Hein. Donc c'est là où on voit Rachid Kassim et il y a d'autres figures. Donc ça, c'est la première chose qui est intéressante. Pour amener les femmes, elle a compris, d'une certaine façon, que la figure de l'homme était plus intéressante que la figure de la femme. Et c'est comme ça que dans cette stratégie maritale, avec parfois des dérives assez étonnantes, puisqu'il y en a une qui tombe amoureuse d'elle, elle arrive à mieux fédérer et à mieux attirer.
Je pense que dans le cas de Madani, on a vraiment quand même quelqu'un qui a essayé d'organiser quelque chose, qui a structuré un réseau, qui a recruté, qui a convaincu. Enfin, on a un vrai, entre guillemets, travail politique qui a été effectué par Inès Madani. C'est pas du tout le cas des deux autres. Sarah Herouet, on voit plus dans sa trajectoire quelqu'un qui souhaite vivre, enfin voilà, qui est dans la fantasmagorie, la fantaisie, le djihad, l'aspect politique est moins présent. Gilligman, c'est un peu moins clair. Voilà. Inès Madani, on l'aurait recrutée dans l'armée côté renseignement. Elle aurait sûrement été extrêmement utile. Je pense qu'elle a beaucoup de talent. Voilà, c'est pas très politiquement correct de dire mais elle avait des talents. Manque de bol, elle n'était pas du bon côté. C'est ce qui la différencie quand même des deux autres. De la plupart des autres, d'ailleurs.
Mais comment cette jeune femme est-elle passée de la place d'une ado ordinaire dans une famille ordinaire à celle d'une terroriste ? Inès, elle parle d'Anissa, une femme dont elle était proche, dont elle gardait les enfants, et qui était partie en Syrie. Elle raconte que c'est ce départ qui l'a fait s'intéresser à l'État islamique. Et qu'au début, ce qu'elle voulait surtout, c'était partir en Syrie aussi. Elle avait essayé, mais ça n'avait pas fonctionné. C'est pour ça qu'elle était fichée S. Le père d'Inès, Patrick, un chauffeur de bus de 52 ans, vient témoigner au procès. Il n'a pas d'explication à donner, lui non plus, il ne comprend pas.
On n'a pas tout à fait compris en tant que parents. Moi, je me couche pas tard. Et bon, ma fille, elle avait 16 ans, elle restait devant l'ordinateur. J'ai pas ressenti le besoin de la fliquer plus que ça. Je pensais pas que c'était aussi simple de communiquer avec quelqu'un dans un pays en guerre. Moi, parfois, pour avoir mon cousin en Algérie, c'est la croix et la bannière.
Le père a essayé de contrer la pente mortifère que prenait sa fille. Il l'emmène voir un imam, puis une association de déradicalisation. Il dit...
Je voulais faire un travail de fond, et puis... En Corrèze, il n'y a pas beaucoup de réseaux. Je me suis dit, ça peut faire une sorte de cure.
Les sœurs et la mère d'Inès confirment avoir vu sombrer cette adolescente, qui avait un rapport au corps un peu compliqué. D'abord parce qu'elle était complexée par son poids, dans une famille de minces. Ensuite aussi parce que c'est son corps, une hernie au dos, qui l'avait empêchée de poursuivre son rêve d'enfant, devenir pâtissière. Et puis, il y a les deux agressions sexuelles dont elle est victime, et qu'elle rapporte. Sa décision de porter le voile intervient d'ailleurs à ce moment-là. Et avec son corps, c'est l'image qu'elle a d'elle-même qui se brouille. Ce qui se traduit par deux dynamiques singulières dans le profil de la jeune fille. Sa volonté de se faire passer pour un homme sur Internet, quand elle cherche à recruter d'autres femmes. Et son envie de mourir, coûte que coûte. Les envies suicidaires sont déjà présentes dans la vie d'Inès avant sa radicalisation. Mais l'adolescente sait que le suicide, c'est un péché dans sa religion, comme dans toutes les autres d'ailleurs. C'est là que le djihad semble lui offrir une solution, en quelque sorte. Parce que mourir en martyr, ça, c'est autorisé. Et mourir en martyr, c'est ce qu'Inès Madani avait prévu. Enfin, c'est ce qu'elle prétend. Elle raconte au tribunal qu'elle voulait rester dans la voiture piégée ce 4 septembre au matin. Mais c'était du gasoil et pas de l'essence. Donc la voiture n'a pas explosé. Dans le cas d'Inès, comme pour un certain nombre de jeunes radicalisés, l'allégeance à l'État islamique ne représenterait donc pas tant une raison de vivre qu'une raison de mourir. Et pour ce faire, Inès va donc se faire passer pour un homme sur les réseaux. Le président de la Cour d'assises spéciale revient longuement sur la question du travestissement. Mais au lieu d'appréhender la dimension politique de cette pratique, il l'interroge, il lui demande « Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose autour de l'attirance homosexuelle ?» Inès répond « Non, pas d'attirance. Après, dans ma famille, par moments, j'aurais préféré être un homme pour pouvoir protéger mes sœurs. » Ces sœurs qui ont été victimes de violences conjugales.
Je ne suis pas sûre que ça soit intéressant de savoir quelle est sa sexualité, en fait. Elle se faisait passer pour un homme. C'est plutôt analysé comme la preuve de sa perversion. Pas du tout comme une forme de stratégie individuelle afin de gagner un espace, une renommée, une influence. Mais parce qu'en fait, il faut pouvoir expliquer pourquoi la femme a été déviante. Pour pouvoir dire, bon, Elle, c'est un cas à part, mais bien sûr, c'est pas toutes les femmes.
Pour les hommes, il n'y a pas, on ne recherche pas un homme accusé de terrorisme, on fait moins ce travail, on n'a pas besoin d'expliquer autant.
Si, mais on l'explique par le politique. Vous regardez, mais même dans les procès, on va demander aux hommes pourquoi, leur motivation. On ne va pas commencer par leur demander si leur papa leur a manqué dans leur enfance et donc du coup ils sont devenus terroristes. Mais on ne s'étonne pas qu'un homme soit violent. Mais ils sont formés pour, les hommes. C'est ceux qui sont censés aller à la guerre. C'est ceux... Donc même s'ils sont du mauvais côté, bon, ben, de toute façon, voilà. Ça va avec leur genre, ça va avec ce qu'on attend de la masculinité. Les femmes, il ne faut pas qu'elles aillent à la guerre.
Mais le fait est qu'Inès reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Elle dit que oui, que le soir du 3 au 4 septembre, elle voulait faire le maximum de victimes. Elle dit qu'à ce moment-là, elle n'avait pas de conscience. Après ces témoignages, l'un des psychiatres appelés à la barre, Daniel Zaguri, indique qu'en psychiatrie,
les délits religieux sont ceux qui sont les plus pourvoyeurs de passage à l'acte criminel. Car quand on a Dieu à ses côtés, tout est plus facile.
Voilà qui expliquerait peut-être l'intensité de la radicalisation d'Inès et de ses complices. Mais sont-elles encore, toujours, dangereuses? Car c'est bien là la question finale de ce procès, 3 ans après les attaques. Pour le tout premier réquisitoire du nouveau parquet national antiterroriste, la réponse est claire. Il ne faut prendre aucun risque. Après avoir requis 30 ans d'emprisonnement à l'encontre d'Inès Madani et 25 contre sa complice Ornella Gilligman, l'avocat général conclut
« Nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Et une récidive en matière de terrorisme aujourd'hui, c'est commettre un attentat. »
Nous ne pouvons pas prédire l'avenir. Et une récidive en matière de terrorisme aujourd'hui, c'est commettre un attentat. Après 10 heures de délibéré, la cour d'assises spéciale, qui n'est donc composée que de magistrats professionnels et pas de jury, comme c'est le cas en matière de terrorisme, eh bien la cour d'assises spéciale prononce son verdict. Inès Madani est condamnée à 30 années de prison, Ornella Gilligman à 25, Sarah Hervouet et Amel Sakaou à 20 ans. La sentence qui vient, pour la première fois, sanctionner le djihad au féminin est sévère. Au moment de l'annonce, Ornella s'effondre. Inès, elle a un léger mouvement de recul et elle semble s'agripper au rebord du box des accusés. À la sortie du tribunal, l'un de ses avocats ne cache pas sa déception, son indignation presque, contre un verdict qu'il considère comme étant à la fois déconnecté de la gravité des faits, puisque pas de mort, pas de blessés, et de la personnalité de la jeune femme. Il rajoute « Désabusé, c'est une décision qui est là pour faire un exemple, indiscutablement ». Mais comment expliquer cette peine, effectivement, objectivement, assez lourde?
Dans l'appréciation des peines, on prend en compte le côté un peu pivot central de l'organisation, de celle qui va recruter, de celle qui va être vraiment le chef, entre guillemets. Parce que là, on parle d'un espèce de commando, en fait, de femmes. Qui dit commando, dit chef, dit d'une certaine façon, même si ce n'est pas dit, une forme de hiérarchie. Il y a un moment, il faut bien qu'il y ait des prises de décision, etc. Donc ça, c'est sans doute quelque chose qui a joué. Et c'est indifférent par rapport au profil, à l'âge, au fait qu'elle soit mariée, pas mariée, tout ça, c'est pas grave. C'est la question de la personnalité, en fait. Et puis aussi de la détermination, de l'endoctrinement, de la dangerosité, de la dissimulation. Parce qu'elle a eu un rôle de dissimulation qui est quand même assez incroyable, ce qui montre bien une forme de duplicité et une détermination qui lui permet de jouer plusieurs rôles.
C'est sûr qu'elles ont un petit peu servi d'exemple. En gros, par rapport au traitement judiciaire qui serait fait du terrorisme en France, en général, mais au sort qui était réservé aux femmes. Voilà, c'est un double avertissement, si vous voulez, d'une certaine manière. Et c'est une façon de dire, maintenant, les femmes, elles ne vont plus passer sous les radars, quoi. Ce qui d'ailleurs est le cas. Du coup, le procès de Madani et de ses comparses, il crée un précédent qui ne rend plus exceptionnelles les peines assez lourdes qui continuent d'être promulguées à l'heure actuelle.
Toujours est-il qu'Inès Madani fait appel de cette décision. Et en juin 2021, elle est de nouveau condamnée à 30 ans de réclusion criminelle, mais cette fois, on lui rajoute 20 années incompressibles. En première instance, la peine de sûreté n'avait pas été retenue, notamment eu égard à son jeune âge au moment des faits. Un égard justement que les juges d'appel n'ont manifestement pas souhaité accorder à la jeune fille. L'ampleur des peines prononcées a donc participé aussi à faire de ce procès un tournant dans la façon dont on appréhende aujourd'hui le rôle des femmes dans le terrorisme djihadiste.
D'ailleurs, je vais vous donner un exemple très précis. C'est que quand les hommes revenaient, ils étaient systématiquement ce qu'on appelle judiciarisés, c'est-à-dire qu'ils passaient par d'abord un entretien avec les services de renseignement, etc. Et dès qu'ils arrivaient sur le sol français, la justice, évidemment, faisait une procédure judiciaire et ils étaient quasiment incarcérés hein, en réalité. Quand les femmes revenaient, avant cette période, elles étaient aussi auditionnées par les services de renseignement, mais en fait, elles n'étaient pas judiciarisées du tout de la même manière et elles n'étaient quasiment pas incarcérées. Je crois qu'il y en avait 3 qui avaient dû être incarcérées à Fresnes, là où il y en avait des dizaines pour les hommes. Donc on voit bien que finalement, on les traitait différemment. Et après, il y a eu un changement de politique et on a criminalisé, c'est-à-dire que le retour, c'est-à-dire qu'on est monté sur une autre échelle, c'est-à-dire qu'on a estimé que c'était très grave, que quand il revenait, ça devait être judiciarisé, notamment au niveau criminel. Et les femmes, à ce moment-là, ont eu aussi un traitement différencié et on a pris cela beaucoup plus au sérieux.
Pour l'instant, les femmes restent des seconds couteaux et surtout des individus qui s'engagent dans la violence djihadiste parce qu'elles se trompent, en fait. Parce qu'elles croient poursuivre un idéal et que cet idéal, en fait, c'est la cata. C'est ça le grand sujet. Ces femmes se trompent. Mais ces hommes, ils se trompent pas, peut-être ? Il n'y en a pas qui se sont dit « Ouh là là, c'est quoi c'est... ?» Voilà. Pour l'instant, on en est encore à dire « Les femmes se trompent ». Mais la question n'est pas de se tromper. C'est pas parce qu'on se trompe qu'on n'est pas engagé politiquement. Là où il y a un avant et un après, c'est qu'on est passé de considérer que les femmes étaient des suiveuses à considérer qu'elles étaient tout aussi dangereuses que les hommes. Voilà. Et je pense que, oui, il explique, enfin, en partie, le procès, il crée un moment de basculement dans la façon dont les femmes sont considérées dans le cadre du terrorisme, quoi.
Si, jusqu'à l'affaire Madani, on avait d'une certaine façon refusé de voir l'expression d'une violence politique chez les femmes, il y a aussi des crimes qui sont politiques indépendamment de la volonté de leurs auteurs ou de leurs autrices. Des crimes dont la dimension politique tient, réside, dans le contexte qui entoure le drame. C'est le cas de l'affaire abordée dans le prochain épisode de notre série. En 1953, en France, le dernier enfant du couple Bach, c'est leur nom, décède, faute de soins et d'alimentation. Si le couple, qui était dans une situation financière catastrophique, est poursuivi, c'est surtout Ginette, la mère, qui est visée. Les partisans de la législation de la contraception s'emparent de ce fait divers qui était loin d'être unique en son genre pour lancer un débat autour de la question. La gynécologue Marie-Andrée Lagroix-Veil-Allais intervient au procès en faveur du couple. Et cette femme, c'est pas n'importe qui. C'est elle qui fondera ensuite la maternité heureuse. Et la maternité heureuse, c'est ce qu'on appellera ensuite le planning familial. Ginette Bach, le procès de la contraception, à retrouver dans le prochain épisode de notre série « Femmes coupables ». Merci à Camille Boutron, sociologue, spécialiste des questions de genre, de violences politiques et de conflits armés, membre de l'Institut pour la paix. Et merci à Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat, ancienne juge antiterroriste, notamment sur le réseau Artigas. Elle a fait un mémoire sur la création du parquet national antiterroriste. Avec les voix de Lola Belcher, Barbara Doro, Frank Foyce, Charles Magy et Rebecca Ducez. Femmes coupables, un podcast La Première de Juliette Proutot, préparé avec Margot Page et réalisé par Anna Buy. Tous les épisodes de la série Femmes coupables consacrés au grand procès de femmes sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.